Vous allez découvrir dans l'exposé qui suit les recherches de Didier Gallo et comment ces recherches permettent de remonter dans l'histoire et les motifs des empoisonnements des lacs d'altitude. Donc vous le savez peut-être, mais les lacs d'altitude, par définition biologique, sont des lacs apicicoles. Donc normalement, il n'y a pas de poissons, parce que tout simplement, les poissons n'ont aucun moyen naturel d'y remonter. Donc Didier va vous expliquer tout ça. Donc Didier est géographe. Il est directeur du laboratoire de géographie de l'environnement à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et il est spécialiste de l'étude des relations environnement-société sur la longue durée et de leur coévolution. À ce titre, il est notamment directeur de l'observatoire Homme-Milieu du Haut Vic de Sceaux. Donc cet observatoire permet d'étudier depuis 2010, avec d'autres chercheurs, hein, bien sûr, les héritages de 6000 ans d'anthropisation de cette vallée. Je lui laisse la parole.
Bonjour à tous. Donc, j'aurais pu parler aussi de paléoclimat, parce que c'est une de mes thématiques, mais je vais vous parler aujourd'hui de... On peut faire la synthèse, pas la synthèse, mais du moins évoquer des résultats qu'on a obtenus dans plusieurs programmes de recherche qui portent sur l'Ariège, mais aussi sur l'ensemble des Pyrénées, vous comprenez pourquoi, et qui traitent de la question des lacs dans les Pyrénées, et en particulier de la mise en place d'un observatoire des lacs d'altitude qui s'est opéré il y a 4 ans. Donc je vais aborder certes l'histoire de l'empoisonnement, mais vous parler aussi plutôt plus largement de cet observatoire. Donc les lacs des Pyrénées pour la partie française, ça a été largement étudié par pas mal de limnologues depuis la fin du XVIIIe siècle, mais c'est un peu le parent pauvre de la connaissance environnementale actuellement sur la chaîne, parce que depuis les années 70 et l'arrêt, du moins les années 80, l'arrêt du laboratoire d'hydrobiologie, des grands travaux qui avaient été menés sur le massif du Néouviel, ça s'était un petit peu arrêté, donc on a décidé de relancer, parce qu'il y a pas mal d'enjeux. Donc les lacs des Pyrénées, vous voyez les caractéristiques sur le versant nord, ce sont des lacs qui sont, c'est la partie gauche, il n'y a pas de pointeur, à gauche, vous le voyez, ce sont des lacs qui sont situés pour la plupart entre 2000 et 2500 mètres d'altitude, et donc des lacs aussi de petite taille. C'est-à-dire qu'on a des lacs qui, pour la plupart et pour l'essentiel, sont inférieurs à 2 hectares. Donc, des petits lacs, contrairement au massif alpin, situés à une altitude moyenne aux alentours entre 2000 et 2005 pour la plupart. Donc, sur ces lacs, on a décidé de mettre en place un observatoire pour suivre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, pour se mettre au chevet de ces lacs, parce qu'ils sont soumis aux triples effets, on va dire à l'effet triple, d'une part, le changement climatique qui est en train de les impacter, probablement, on ne sait pas, mais on se doute qu'il va y avoir un impact du réchauffement climatique sur ces lacs. Aussi, un changement dans les pratiques humaines, avec le développement du tourisme, l'halieutisme, etc., qui peut avoir un impact, mais aussi le pastoralisme, on a des cas. Et un autre effet qui est celui, bien connu, de l'introduction de poissons. Donc, et aussi des interventions humaines, enfin, conséquences des activités humaines que sont les contaminations atmosphériques. Donc je vais vous présenter un petit peu tous ces résultats. Donc l'observatoire il fonctionne sur un réseau de lacs instrumentés. Il y en a 8 qui ont été installés sur l'ensemble de la chaîne. En gros, du lac d'Ayous au lac du Gourgaudet dans la réserve d'Orlu. Il y en a un qui concerne, enfin, d'ailleurs deux concernent le parc naturel, celui d'Arbu et prochainement celui du Picotte. Qui va être installé du lac du Picotte, qui va être installé avant l'hiver. Et on va en avoir un 9e qui sera installé dans le massif du Carlite, aux étangs du Camporeis, dans peu de temps. Donc tout un réseau de lacs qui sont monitorés, sur lesquels on procède à des suivis continuels, enfin, à différentes fréquences, que ce soit horaires, annuels, etc., relevés des températures d'eau par des chaînes de thermistors qui sont installées, des trappes à sédiments, on mesure systématiquement, annuellement, les caractéristiques physico-chimiques, la transparence, la chimie de l'eau, mais aussi des relevés biologiques, macro-invertébrés, zooplancton, etc. On fait ça tous les ans pour suivre un petit peu comment il évolue au cours du temps en fonction des températures. Si vous regardez les courbes qui sont en bas, bon, la définition n'est pas très bonne, mais ce sont des relevés des eaux de surface du lac d'Ayous qui sont réalisés maintenant depuis 10 ans sur cet étang-là. Et en fait, on ne voit pas, mais il y a une tendance très nette à l'augmentation des eaux de surface de ce lac, où on passe, on a aujourd'hui, dans ce lac qui est situé à 2000 mètres, on a des températures qui dépassent les 20 degrés en surface. Mais plus inquiétant encore, on a des températures qui atteignent les 17 degrés à 20 mètres de profondeur. Et sur des lacs plus profonds, celui de Port-Biel qui est à 25 mètres de profondeur, on a fait les relevés cette semaine, on atteint des températures également de 17-18 degrés à 25 mètres de profondeur au pic de l'été. C'est-à-dire qu'on a vraiment une colonne très chaude sur l'ensemble du lac à ce moment-là. Et en bas, vous avez le profil de l'étang d'Arbu qui est situé dans la vallée de Sucre et Saint-Tenac. Et vous voyez qu'on a la stratification thermique dans les lacs des Pyrénées. Peut-être dans des lacs très très profonds, supérieurs à 30 mètres, mais on est dans ce qu'on appelle des lacs dymictiques de second ordre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une colonne chaude, il y a toujours un renversement, mais c'est des lacs qui se réchauffent et, qui dit réchauffement, peuvent aggraver des processus d'eutrophisation quand ils commencent à s'opérer. Et on a quelques lacs qui sont dans ce cas dans les Pyrénées. Donc, on a suivi aussi les contaminations dans ces lacs, parce qu'effectivement, les activités humaines contaminent ça depuis plusieurs millénaires. Et il y a eu des contaminations par voie atmosphérique, avec des contaminants qui sont les éléments de traces métalliques, mais aussi tous ces nouveaux contaminants synthétiques que l'on retrouve aujourd'hui, que sont les PCB, les organochlorés, les pesticides organochlorés, ou aussi les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, qui sont des produits assez toxiques pour les organismes, mais aussi pour la santé. Donc on a fait ça sur plus d'une vingtaine de lacs, et je vous montre quelques résultats. Concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est tous les dosages que l'on peut voir ici. On reste dans une gamme de faible contamination, soyons clairs. Les lacs sont globalement propres. Ils sont juste au niveau des normes, des seuils qui sont par les agences américaines, européennes. Donc on a des lacs qui ne sont pas trop contaminés. Mais si on regarde les HAP, vous remarquerez que le Vic de Sceaux, au sud de Foix, à droite, est beaucoup plus contaminé que le reste des Pyrénées. Quand on fait des tests statistiques, ça le prouve, c'est clair. Tout simplement, on a la proximité avec les usines de Péchiné, production d'aluminium. Et là, on a vraiment l'aluminium est vraiment un gros producteur de HAP pour ces lacs. C'est la seule différence qu'on voit de point de vue spatial sur ces polluants synthétiques. Quand on regarde les pesticides, on retrouve les grandes zones pastorales, le Vic de Sceaux aussi, pas mal avec un ou deux lacs qui crachent beaucoup en termes d'OCP, mais toutes ces zones pastorales sont concernées, bien sûr. On a utilisé le lindane, vous allez le voir, pour traiter les troupeaux, et on le retrouve aujourd'hui stocké dans les lacs, parce que ce sont des contaminants qui sont persistants, qui sont piégés. Pareil pour les... tout à l'heure c'était les PCB, ça ce sont les OCP, excusez-moi, ce sont ceux qui sont produits par les pesticides. Et vous voyez, c'est le Vic de Sceaux qui ressort encore, mais tous les grands secteurs d'estive ressortent aussi. Si on regarde maintenant dans le temps des productions de ces micropolluants synthétiques, vous avez deux courbes là qui sont l'évolution du contenu à micropolluants stockés dans les sédiments au cours du temps, au cours des deux derniers siècles. Et on voit très bien l'augmentation de la courbe des hydrocarbures aromatiques polycycliques à partir des années 1900, vous le voyez, qui va culminer entre 1950 et 2000, et puis à partir de 2000, elle s'effondre. C'est à côté de l'usine de Péchiné, et on retrouve là la temporalité du fonctionnement de l'usine de Péchiné qui produisait ces HAP. Et si on regarde à droite, c'est la courbe des pesticides, notamment DDT, etc. Vous regarderez qu'elle augmente à partir des années 50, et puis elle s'effondre après 2000. Et on est exactement dans le timing de l'utilisation de ce produit et de son interdiction à partir du milieu des années 2000. Donc là, on a vraiment un lien direct entre des pratiques, des activités, des contaminations. Ce qui est rassurant, c'est de voir qu'elle s'effondre et qu'elle redevienne à des taux pré-industriels. Donc, c'est déjà un bon signe. Pareil pour les éléments de traces métalliques, vous voyez, il y a beaucoup de lacs, c'est très hétérogène. Ça rentre dans le rouge dans pas mal de lacs au niveau des contaminations, mais là, il ne faut pas non plus s'affoler. Souvent, ces contaminations correspondent à un bruit de fond naturel géologique, c'est-à-dire c'est la géologie qui contient ces minéraux, et on a une contamination qui est, on va dire, naturelle par des composés minéraux qui contaminent le lac. C'est le cas si vous regardez la figure en bas à droite, où vous voyez qu'au cours du temps, ces contaminations restent stables. Par contre, si vous regardez la figure du haut, on revient à l'étang d'Arbu, vous remarquerez que tous les points augmentent sur la droite. Ça, c'est l'enrichissement d'origine industrielle. Donc il faut vraiment étudier chaque lac, cas par cas, pour vraiment arriver à discriminer ce qui relève de l'impact de l'enrichissement industriel ou pas. Maintenant, on revient peut-être au cœur du sujet, l'histoire des empoisonnements. Donc, ça a été dit, les lacs des Pyrénées étaient naturellement apicicoles, c'est-à-dire qu'ils ne contenaient pas de poissons. Et c'est un sujet d'étude assez intéressant, parce qu'on a introduit, on a artificialisé un écosystème en mettant des poissons, et on l'a considérablement transformé, et ça a des conséquences aujourd'hui qui sont intéressantes d'étudier. Donc c'est une histoire qui est très complexe, parce que c'est un sujet qui est chargé d'enjeux aujourd'hui, cette question des empoisonnements. Pas mal de scientifiques à travers le monde ont pointé du doigt l'impact des introductions de poissons sur la biodiversité, sur le changement de l'atrophie des lacs, enfin du fonctionnement écologique des lacs. Et depuis quelques années, il y a des mesures de renaturation, de restauration, qui sont lancées un petit peu partout en Europe et aux États-Unis, où on essaye d'enlever carrément les poissons que l'on a introduits dans les lacs pour revenir à un état de restauration écologique, pour retrouver des lacs sans poissons. Donc ça a été un petit peu le point de départ de ma recherche, avant de se lancer dans ce genre de choses, puisque c'est initié dans le cadre d'un projet dans les Pyrénées. J'ai voulu essayer de comprendre, avant de chercher à caractériser l'impact de ces introductions de poissons sur les lacs, comme un impact anthropique sur ces écosystèmes, à essayer de voir quelle avait été l'histoire de l'introduction de ces poissons, essentiellement que des salmonidés, dans les lacs d'altitude. Et c'est une histoire qui est très complexe, parce qu'en fait, ça ne laisse pas de traces, contrairement à la chasse. La chasse, c'est prestigieux. Quand vous allez dans les archives, y compris les archives médiévales, vous avez des mentions autour de la chasse, parce que c'était quelque chose qui relevait du pouvoir nobiliaire. Énormément de sources sur la chasse. Sur la pêche, il n'y en a quasiment aucune. Et il faut aller vraiment creuser les archives, exploiter une multiplicité de sources pour trouver des informations. Et d'ailleurs, je viens d'en trouver une à l'instant, qui m'a été communiquée, que je ne connaissais pas. Ce sont vraiment des tout petits indices. Et donc, les sources que j'ai utilisées pour faire cette histoire, elles sont multiples. C'est d'une part les récits de voyage, les guides d'excursion, les descriptions naturalistes, et ça depuis qu'il y a des écrits sur les Pyrénées. Ce sont ensuite les archives des ponts et chaussées, parce que c'est d'eux dont dépendait la gestion des cours d'eau, des lacs, etc., au moins jusqu'à la fin du 19e. Les archives forestières, qui elles vont après, l'administration forestière va reprendre en main la gestion des lacs et des cours d'eau. Puis les archives communales, parce qu'elles contiennent des informations sur des droits de pêche, sur des affermages, sur des lacs, sur l'existence de pêcheurs professionnels. Bien évidemment, les archives des pisciculture dès leur démarrage. Les pisciculture, c'est à partir de la deuxième moitié du 19e qu'elles commencent à se développer partout en France, en Europe, mais aussi dans les Pyrénées. Et puis après, et je les remercie puisqu'il y en a un des représentants, les archives des fédérations départementales de pêche et des associations locales de pêche. Plus l'iconographie. Donc vous voyez, ça fait un corpus extrêmement important, d'éléments extrêmement dispersés pour arriver à reconstituer une histoire qui était encore assez méconnue, même si elle avait été ébauchée pour le versant sud des Pyrénées par quelqu'un qui s'appelle Alex Miro. Donc si on fait une brève histoire du peuplement piscicole des Pyrénées, les premières mentions que l'on a sur le peuplement piscicole, c'est la fin du Moyen-Âge, avec des mentions au début du XIVe siècle de droits de pêche que se réservent les moines de Saint-Savin dans les Hautes-Pyrénées, dans le lac de Gobe, mais aussi un pêcheur professionnel au début du XVe dans le lac d'Évol, dans les Pyrénées-Orientales. Ce sont pour les plus anciennes mentions que l'on ait de pêche ou de droits de pêche dans les lacs, qui mentionnent qu'il y a des truites dans ces lacs-là. Pour avoir des truites au lac de Gobe, quand vous connaissez les cascades du cours d'eau qui arrive au lac de Gobe, ça veut dire qu'on les lui a mises. Donc déjà, ces truites, elles avaient été introduites. Donc ces introductions de poissons, elles sont déjà extrêmement anciennes et elles sont antémédiévales, c'est quasiment certain. Mais on n'a pas de documentation permettant d'avoir une cartographie exhaustive du peuplement à ce moment-là. Arrive ensuite, à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, surtout à partir du début du XVIIIe, des informations de plus en plus fréquentes sur la culture des lacs. Quand je parle de culture, c'est comme une agriculture des lacs. Tout le champ lexical, toute la sémantique renvoie à l'agriculture. On ensemence les lacs, on sème des poissons. Et en fait, pendant une longue période qui va durer, d'après la documentation, du XVIIe jusqu'à la fin du XIXe, les lacs des Pyrénées sont considérés comme des viviers. C'est-à-dire qu'on va mettre du poisson à l'intérieur, on va le faire grossir. S'il reproduit à l'intérieur parce qu'il y a des cours d'eau, parce qu'il y a des plages, des graviers, des deltas qui permettent que les truites reproduisent, c'est à mieux. Mais sinon, on va systématiquement réintroduire du poisson et l'élever à l'intérieur, le faire grossir. Toutes les données que j'ai pu retrouver anciennes portent des mentions de truites énormes, très grosses. C'est-à-dire on essayait de produire des poissons de grand poids pour qu'ils soient plus rentables lors de la vente, parce que c'était des pêcheurs professionnels qui travaillaient sur ces lacs. Et à partir du XVIIIe siècle, il y a un facteur important qui va permettre le développement de cette culture, de cette aquaculture ou aquiculture des lacs d'altitude, c'est le développement du tourisme thermal. Avec le tourisme thermal, il y a une clientèle fortunée qui arrive, il y a une population de plus en plus importante qui arrive d'un peu partout, et ils veulent manger des truites, c'est un mets prestigieux. La truite se vend 6 francs le kilo au XIXe siècle. Une chambre d'hôtel à Bagnères, de Luchon, c'est 2 francs. Ça vous donne un ratio à la même époque. Donc c'est une activité qui est très lucrative, c'est une denrée rare et chère. Donc on se met à pêcher et à ensemencer des lacs autour des villes thermales. C'est autour des centres thermaux qu'on va trouver tous les grands lacs qui sont empoisonnés au départ. Mais la pression est telle qu'on vide les rivières à ce moment-là. C'est une très forte demande. On va surexploiter les lacs et en parallèle va se mettre un réseau d'échanges entre l'Espagne et la France. À ce moment-là, les pêcheurs espagnols font la même chose sur le versant sud et apportent des truites vivantes, dans certains cas, aux villes thermales de Bagnères de Luchon, de Barèges, de Cotteret, etc. Donc c'est vraiment une industrie de la pêche qui se met en place au XIXe siècle. Quelques chiffres. En 1851, par exemple, pour la seule ville de Barèges, c'est 2 tonnes de truites. C'est 9 pêcheurs professionnels qui produisent 2 tonnes de truites. Et en 1875, on a 12 tonnes de truites qui sont mises sur les marchés des villes thermales, des Hautes-Pyrénées uniquement. Donc ça vous donne une idée de la pression qu'il y avait à ce moment-là, à la fois sur les cours d'eau, mais aussi sur les lacs. Ils arrivaient à épuisement. Et du coup, à la fin 19e, début 20e, situation piscicole dramatique. Tous les textes confirment qu'il n'y a plus rien dans les cours d'eau. C'est braconné, c'est empoisonné, c'est pêché au filet, tout est détruit. Et c'est là que intervient l'administration centrale, le pouvoir central, mais aussi la grande vague de restauration des montagnes. Il faut donner à manger aux gens, il faut restaurer une vision à la fois humaniste, mais aussi un petit peu mercantile, qui essaie d'extraire des profits de toutes les ressources possibles. Et on voit que le sujet va passer dans les mains de l'administration et qu'on va avoir des consignes pour faciliter la pisciculture, pour en faire une activité économique et pour rentabiliser ces écosystèmes-là que sont les lacs. On rentre dans une autre phase, qui est une phase plutôt commerciale, où l'administration veut promouvoir la pisciculture des lacs. Et donc, à partir de la fin du 19e, on va voir apparaître les premières piscicultures, notamment à Mérens-les-Val, où il y a un gars qui s'appelle Sigrid Harrid, qui écrit un petit bouquin extraordinaire que je vous conseille de regarder si vous allez aux archives, et qui va monter sa première petite pisciculture tout seul dans son coin, qui va introduire des truites dans l'Ariège et dans le lac des Comtes à Mérens. C'est la première tentative. Et puis après, ces piscicultures vont se multiplier. Fin 19e, on va avoir des piscicultures qui vont apparaître un petit peu partout. Début 20e, Oloron, Cotteret, Ozatte, dans les années 1920. Et c'est des pisciculteurs fédérales. Et à ce moment-là, on va introduire des alevins pour restaurer les cours d'eau. C'est-à-dire qu'on va remettre les truites un petit peu partout, qui viennent de tout horizon. C'est là que on rejoindra la communication suivante. Les truites qu'on introduit à ce moment-là, on ne sait pas d'où elles viennent. Parce qu'en fait, le problème de la pisciculture, c'est de se procurer des œufs. On ne maîtrise pas encore l'incubation. Donc on fait venir des œufs d'un petit peu partout. Du Danemark, de Suède, de Suisse, de la Huningue dans l'Est. Donc on a un brassage de population de salmonidés absolument incroyable qui est introduit dans les cours d'eau. Et le truc fameux à Ozatte dans le Vic de Sceaux, c'est oui, on introduit des danoises. C'est-à-dire on met des danoises dans les cours d'eau, c'est-à-dire sous-entendu des truites danoises qui viennent d'œufs qui ont été importés du Danemark, qui eux-mêmes venaient peut-être des États-Unis. Donc ça, la question de la génétique, après, ça pose beaucoup de questions, hein, entre les communications versant sud, versant nord, où on met des truites dans des lacs du versant nord qui viennent du versant sud, ces œufs qui sont apportés d'un petit peu partout dès le début de la pisciculture. Bref, c'est une histoire qui va durer du début 20e jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. C'est les prémices. Il y a des gens qui mettent des truies dans les lacs, les eaux et forêts sont très actifs, ça commence en 1905, et surtout ça va prendre un essor dans les années 1930. Dans les années 1930, avec Schmitz et Larieux, qui vont introduire beaucoup de truites dans les lacs des Pyrénées centrales, mais aussi en Ariège, un grand dynamisme identique. Donc, d'un point de vue cartographique, les lacs piscicoles en 1875, ils sont systématiquement autour des villes thermales. Ussat, Aulus, Axéthermes, Barège, Bagnères, etc. 1900, on en a un petit peu plus. C'est-à-dire, c'est des lacs où on a introduit des poissons, mais par les pêcheurs professionnels eux-mêmes, qui ont introduit des poissons, notamment dans le carlite, etc. 1930, le nombre de lacs piscicoles augmente. C'est les premières tentatives par les eaux et forêts, par tous ces gens-là qui vont essayer d'empoissonner, y compris par la Société d'amélioration des montagnes de Paul Descombes. 1960, là, ça commence à augmenter. Le versant nord des Pyrénées est touché. On voit les points rouges se multiplier sur la carte. Ce sont les lacs qui comportent du poisson. Et à ce moment-là, c'est une date charnière. C'est le début des héliportages et c'est le début des alevinages par hélicoptère. Avant, on faisait ça à pied, c'était très contraignant et on se limitait aux lacs qui étaient proches. À partir de 1957 précisément, parce que ça démarre en Ariège, c'est les lacs de la Bruyante, du Kérigut, qui sont les premiers à être alevinés en hélicoptère, et ceux de Bassiès, c'est les premières mentions. Là, à partir de là, ça va se systématiser et vous allez voir que la densification des lacs piscicoles va prendre une autre tournure. 1960, il y a encore du blanc. 1985, il n'y a pratiquement plus de blanc du tout. 2000, encore plus. 2015, la situation est comme ça. Si on fait une synthèse sur l'ensemble de la période, entre 1875 et 2000, vous avez cette courbe-là. C'est-à-dire qu'avant les grandes phases d'introduction, vous avez 5 à 6% des lacs qui étaient piscicoles. Et puis aujourd'hui, on arrive à 88-89% des lacs de la chaîne qui sont piscicoles. C'est toute proportion gardée et toute. Si on le compare à d'autres phénomènes d'origine humaine, c'est un phénomène qui est aussi massif que le processus de mise en culture, c'est-à-dire que l'agriculture. C'est-à-dire qu'on prend un écosystème qui était vierge et on l'artificialise en un siècle en quasi-totalité. Et quand on parle d'artificialisation, et là je parle sous contrôle de gens qui connaissent bien le sujet, en limnologie ou en hydrobiologie, introduire des aliens, parce que ce sont des vrais aliens, hein, des corps étrangers dans un écosystème, c'est un impact énorme. Quand vous dites ça à des gens qui sont pêcheurs, montagnards, que vous leur dites, mais voilà, il ne faut pas mettre de poissons, ils vous diront, mais c'est naturel qu'il y ait des poissons dans les lacs. Moi j'ai fait une enquête socio sur les Pyrénées, auprès de gens qui fréquentaient les refuges, 85% des gens pensent que c'est naturel qu'il y ait des poissons dans les lacs. Comment voulez-vous leur faire comprendre qu'il faut les enlever? Vous voyez un petit peu le problème. On est dans le problème de la conservation et de la protection. Là. Donc maintenant, si on regarde aussi une analyse statistique, eh bien le processus d'alevinage et du peuplement piscicole, on pourrait le résumer en deux phrases, une phrase lapidaire, toujours plus haut, toujours plus petit. C'est-à-dire qu'on a systématiquement, au cours du temps, conquis des lacs de plus en plus haut en altitude. On repousse les limites de cette conquête par les fédés, par les associations, et on va aussi aleviner des lacs de plus en plus petits. C'est-à-dire qu'on essaie d'aleviner toute nappe d'eau susceptible de porter du poisson à des fins halieutiques. Pas maintenant, mais jusque dans les années 1990, on est dans cette trajectoire-là. Aujourd'hui, on rentre dans une autre trajectoire, qui est celle du rétropédalage. On est conscient des impacts environnementaux, on est conscient des impacts sur la biodiversité. On met des lacs en réserve patrimoniale où on ne fait plus d'alevinage. On arrête des alevinages dans des lacs où les truites disparaissent. Et là peut surgir un autre problème. On le verra à la fin. Maintenant, on peut regarder les dates d'introduction des espèces, alors là pour le coup à l'octone, parce que c'est là qu'au début ils ont été peuplés uniquement de truites fario. La truite classique que vous avez dans les cours d'eau des Pyrénées, qu'elle soit d'origine méditerranéenne ou atlantique, c'est la même en gros. À partir de 1910, mais c'était connu bien avant, on a commencé à introduire, sous l'impulsion des sociétés d'acclimatation de la deuxième moitié du 19e, des espèces exotiques. Les truites arc-en-ciel, les saumons de fontaine, essentiellement des espèces nord-américaines, à l'exception de l'omble chevalier, qui lui est un omble alpin. Mais vous prenez le saumon de fontaine, la truite arc-en-ciel et le Christy Vomer, sont des espèces nord-américaines qu'on a introduites dans les lacs et on a pu reconstruire cette chronologie. On voit que ça démarre vraiment après-guerre, où on commence à mettre ces espèces exotiques, puis ça va exploser après les années 80, hein, avec notamment une introduction massive de saumon de fontaine. Là, c'est uniquement les lacs d'Ariège et des Hautes-Pyrénées. Le saumon de fontaine étant l'espèce la plus résistante pour les lacs les plus hauts en altitude, quand on a fait cette conquête, que je disais, de lacs de plus en plus hauts, c'était les seuls qui pouvaient survivre dans de telles conditions. Donc c'est cette espèce qu'on a mis de manière préférentielle. Donc on se retrouve avec une artificialisation encore plus massive que ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on a colonisé des écosystèmes qui n'étaient pas peuplés de poissons avec des poissons, et on a introduit en plus des espèces qui n'étaient pas des espèces locales, mais aussi des espèces qu'on pourrait non pas qualifiées d'invasives parce qu'elles ne passent pas d'un lac à un autre, mais proliférantes. Les appâts des pêcheurs, le véron, la rabote, le pesquite que vous attrapez à les rivières est utilisé pour pêcher la truite dans les lacs. Les pêcheurs les laissent vivants dans le lac et le véron se met à proliférer. Et lui, mais ça serait un autre débat, peut avoir un impact considérable sur les écosystèmes d'altitude, beaucoup plus impactant probablement que la truite, malgré sa petite taille. Alors, dans les cas des activités de l'OHM, on essaie de suivre cet impact par des approches de paléolimnologie ou sur des carottes de sédiments. On essaie de mesurer par l'utilisation des pigments la modification des contenus algaires liés à ces populations de truites, mais aussi on utilise d'autres indicateurs tels que les insectes, les chironomides. Donc c'est ce qu'on essaie de suivre. Après avoir reconstitué l'histoire, maintenant on essaie de reconstituer l'impact sur le fonctionnement écologique du lac, mais aussi sur la biodiversité de ces lacs. Voilà, merci beaucoup.